VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Pour notre journal. Cour pénale internationale de La Haye, l'ancien vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre, viol et crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale lui a infligé 18 ans de prison. Éric Manirakiza.
La sentence a été annoncée en audience publique. La juge Sylvia Steiner a énuméré les cinq chefs d'accusation retenus contre l'ancien vice-président congolais avant de prononcer la peine.
La Chambre impose la sentence la plus élevée de 18 ans pour viol et constitue la peine totale contre M. Bemba.
Contre l'humanité.
Donc Jean-Pierre Bemba Gombo écope 18 ans de prison. La plus lourde peine qui sera déduite du temps qu'il a passé sous les verrous. La défense a annoncé qu'elle va faire appel. Il avait été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol perpétré par sa milice en Centrafrique. Jean-Pierre Bemba est la première personnalité de haut rang à être châtié par la Cour pénale internationale. Riche homme d'affaires, M. Bemba s'est converti en chef de guerre à la tête du mouvement de libération congolais, le MLC, qui a commis des bavures à Bangui entre octobre 2002 et mars 2003.
Réaction à la condamnation de Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison, son parti, le Mouvement pour la libération du Congo, dénonce une justice sélective car les véritables protagonistes de la crise centrafricaine n'ont jamais été convoqués à la barre. Et la lumière n'a jamais été faite sur les 22 témoins à charge qui ont fait volte-face à la CPI. Pour le MLC, la main des dirigeants à Kinshasa n'est pas non plus innocente. Eddy Issango a joint à Kinshasa la secrétaire générale du MLC, Eve Bazaïba.
C'est une déception par rapport à la crédibilité de la Cour. Nous pensions, nous, que la Cour allait savoir que 8 années passées par M. Bemba à la CPI sont assez, étant donné que la Cour elle-même avait dit qu'il n'était pas l'un des principaux protagonistes et que les troupes MLC n'étaient pas les seules troupes qui étaient sur le terrain, que lui-même, M. Bemba, n'était pas sur le terrain.
Certains juristes ont critiqué les avocats de Jean-Pierre Bemba, disant qu'il s'était fourvoyé en avançant l'hypothèse d'un procès politique téléguidé par Kinshasa. Est-ce qu'à l'issue de ce procès, vous tenez encore à cette thèse?
C'est une justice sélective et discriminatoire. Tenez pour exemple, 22 témoins ont écrit à la Cour qu'on leur avait demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Parmi les témoins, il y a des Congolais, caméramènes, journalistes qui étaient pris en charge ici par Kinshasa, en passant par Brazzaville, pris en charge par l'ambassadeur de la RDC à Bangui. Ils ont procédé à des montages d'images filmées et des interviews pour charger M. Bemba. Le procureur n'a jamais instruit à décharge. Les principaux protagonistes cités par la Cour le 21 mars, c'est Patassé et Bozizé. Mais c'était parti là-bas à la demande expresse de M. Patassé. Où sont-ils? On n'a appelé personne. M. Bemba n'était pas dans la chaîne de commandement. Ce que les avocats ont dénoncé, c'est la confusion que fait la Cour entre la notion du commandement d'être responsable des militaires et d'avoir le commandement d'opération.
Il y a un deuxième procès contre Bemba dans lequel il est chargé, lui, d'avoir suborné les témoins aussi.
Mais justement, le 22 témoin dont je viens de vous parler, quand ils ont vu que le procureur Moreno était parti, il a fini son contrat à la Cour pénale internationale. Ils sont allés le chercher pour dire quelle est notre part des contrats. Vous nous avez demandé de charger M. Bemba en échange des avantages. Nous l'avons fait. Moreno leur dira, je ne suis plus concerné par cette question parce que j'ai terminé mon contrat avec la CPI. Le 22 témoins ont dénoncé par écrit. Alors, ils ont fait toutes les démarches pour saisir la défense.
Il y a des enregistrements qui circulent là-dessus, en fait.
Tout l'argent, les dépenses que nous avons fait, la défense a fait pour amener le témoin là-bas à la Cour pénale internationale.
Eve Bazaïba, secrétaire générale du MLC, joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
On reste en Afrique centrale. RCA, la situation humanitaire est encore préoccupante sur le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. MSF, Médecins sans frontières, compte assouplir les critères d'admission dans son seul grand centre de traitement médical sur le site, mais certains déplacés se disent abandonnés à leur triste sort. Le reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Le site des déplacés de l'aéroport de Bangui-Poko reste aujourd'hui le camp de fortune le plus peuplé de la capitale. Malgré le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays, plus de 20 000 déplacés y vivent encore. La situation humanitaire se dégrade de plus en plus avec la saison pluvieuse. Évariste vit avec sa famille sur le site.
C'est un peu difficile pour nous les déplacer, quoi, parce qu'il y a des autres gens qui ont encore des problèmes de santé. En cas d'intervention rapide, les gens ont des problèmes. Maintenant même, dans la saison pluvieuse, il y a comme des palus, il y a beaucoup de sortes de maladies qui menacent.
Ici, sur le site, MSF est la seule ONG qui s'occupe pour la plupart des cas de la prise en charge sanitaire des déplacés. Dernièrement, l'organisation humanitaire a décidé de réduire la capacité de son service en se focalisant sur des cas jugés importants. Les enfants de 0 à 15 ans sont prioritaires dans les cas graves, notamment le paludisme et les interventions d'urgence. Ces déplacés pensent que les adultes sont abandonnés à leur triste sort. Ils appellent MSF à revoir sa méthode.
Les cas de vieux là, c'est trop fort, c'est très dur mon frère. Il faut passer d'autre part l'hôpital combattant Bédé ou bien 5 kilos Mamadou Mbaïki ou bien Kolkpangaba là. Surtout le problème de situation de l'argent là, c'est trop dur. La méthode là, c'est pas bien.
Nous voulons que l'hôpital reste ici et puis tout le monde doit soigner ici, passer l'hôpital pour peuple sans trafic.
Au MSF, les responsables précisent que les adultes ne sont pas mis de côté. Ils sont orientés dans les autres centres de santé existants et opérationnels. Docteur Emmanuel Lampaer, chef de mission MSF Belgique.
Nous avons de plus en plus des cas de paludisme qui sont souvent des cas d'urgence. Afin de pouvoir se concentrer sur toutes ces urgences et avec des moyens qui sont à un moment aussi limités. Nous avons voulu mettre un plafond en termes de volume de consultation par jour. C'est ainsi que tous les cas, moins 15 ans, femmes enceintes, bien évidemment, seront à tout moment consultés. Pour les adultes non touchés par le paludisme, nous allons différer dans le temps. Et également, l'orientation et l'information donnée sur l'existence des centres de santé existants.
La situation alarmante dans laquelle vivent ces personnes affectées par la crise préoccupe aussi bien les humanitaires que les nouvelles autorités. Dimanche, le maire de Bangui, Émile Gros-Raymond Nkombo, s'est rendu à leur chevet.
Il n'est jamais gai de voir des familles souffrir au point de mourir. Ils ont fui la mort et ils viennent ici dans des conditions difficiles.
Freeman Sipila, Bangui.
On passe à l'Afrique de l'Ouest. Au Nigeria, le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu d'un mois avec les groupes armés rebelles dans le delta du Niger. Le point avec Claire Morin-Gibault.
Cet accord de cessez-le-feu annoncé par le gouvernement d'Abuja inclut les vengeurs du delta du Niger qui ont multiplié les attaques ces dernières semaines dans cette région riche en hydrocarbures. Mais sur leur compte Twitter, les vengeurs du delta ont assuré dans un message ironique que le haut commandement des rebelles ne se souvient pas avoir conclu le moindre cessez-le-feu. Le groupe s'était dit prêt à négocier avec le gouvernement la semaine dernière si des médiateurs étrangers supervisaient les discussions. Les vengeurs du Delta affirment se battre pour une meilleure répartition des recettes dans le Delta du Niger. Ces multiples attaques contre les installations pétrolières ont contribué à la chute de la production de brut à son niveau le plus bas depuis 30 ans. Le pétrole représente 70% des revenus de la première économie africaine.
Et puis, l'Europe est fébrile à moins de 48 heures du référendum de la Grande-Bretagne pour rester ou non au sein de l'Union européenne. Tous les détails avec Tatiana Mosso.
Quel que soit le choix des Britanniques jeudi, les attentes sont grandes à Berlin et Paris, les deux piliers de l'Union européenne. Le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, promet de garder l'initiative pour éviter une éventuelle contamination en cas de victoire du Brexit. Il a évoqué un budget, un parlement et un commissaire pour la zone euro. Mais concernant l'euro, les divergences et suspicions persistent entre Paris et Berlin. La France peine à contrôler ses déficits, tandis que Berlin refuse l'idée d'une mutualisation des dettes. Les Allemands ont peur de se retrouver avec une France affaiblie et il n'y a pas de consensus sur la politique à adopter le jour d'après. Côté allemand, Wolfgang Schäuble, ministre des Finances, a estimé « quelle que soit l'issue du scrutin, il ne faudra pas dire « continuons comme ça en Europe ». En attendant le vote des Britanniques, l'Institut Montaigne en France a lancé une mise en garde disant que la tentation du statu quo et de l'immobilisme serait simplement un suicide politique.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.